Bonjour Renaud Dourge en votre compagnie, avec Benoît à la réalisation. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans ce studio Gilles Paris pour son nouveau roman, car Gilles Paris a écrit de nombreux livres, nous aurons l'occasion de lui parler de certains d'entre eux tout à l'heure. Un roman paru chez Héloïse d'Ormesson qui s'appelle L'attrape-mot. Gilles Paris, bonjour.
Bonjour Renaud.
Alors vous avez écrit de nombreux livres, alors il y en a un qui est incontournable parce qu'il a eu un tel succès qu'il est adapté au cinéma. Il a eu un César en France, si mes souvenirs sont exacts.
Deux, et
il a été présenté, il a été nominé, comme l'on dit, aux Oscars à Hollywood.
Tout à fait, c'est Autobiographie d'une courgette qui date de 2002. Donc, c'est-à-dire, ce qui est incroyable dans l'édition, parce que c'est vrai qu'un livre ne dure pas éternellement comme on l'imagine, et celui-ci dure depuis plus de 20 ans. Il a été d'abord adapté à la télévision, puis au cinéma en film d'animation sous le titre Ma vie de courgette, et ensuite enfin au théâtre avec beaucoup de succès, au théâtre Tristan Bernard, et puis partout dans la France, partout en France.
La semaine dernière, je parlais de Tristan Bernard, justement, avec mon invité Albert Villemette. Peut-être un jour, peut-être à Broadway, pourquoi pas?
Peut-être un jour, on verra.
Ah, ça serait merveilleux.
Oui.
Il y a donc eu plusieurs ouvrages où il y a les enfants, que pourrais-je citer, au pays des kangourous, Papa et maman sont morts. Mais très souvent, vous coulez dans la personnalité d'un enfant ou d'un adolescent.
Oui, j'ai toujours aimé ça. Depuis,
parce que c'est le cas aussi, on va en parler tout à l'heure.
Depuis mes premières nouvelles qui remontent à mes 14-15 ans. Et j'ai toujours aimé ça parce que l'enfance ne juge pas, elle essaye de comprendre. Ce serait presque une définition de la tolérance avant le mot. Et j'aime aussi beaucoup l'adolescence parce que c'est une période opposée, rebelle, difficile, complexe. Donc pour un romancier, évidemment, c'est un terreau exceptionnel que ça soit... l'enfance et l'adolescent qui est en nous et qui fait l'adulte qu'on devient ensuite.
Et souvent, vous parlez de problèmes psychologiques, voire même psychiatriques.
Oui, parce que c'est lié, en fait, le mental, comme on l'appelle, est important pour des enfants, pour des adolescents qui sont un peu égarés, qui sont un peu perdus et qui se reconstruisent en même temps pour devenir adultes.
Bien sûr. L'attrape-mot. Alors, ce titre fait penser immédiatement à un très célèbre roman américain, et ce n'est pas un hasard.
Non, tout à fait, L'attrape-cœur.
De Salinger,
de J.D. Salinger, qui est paru en 1951, qui a été très critiqué à sa sortie en France et aux États-Unis parce qu'on lui reprochait un langage très familier, un décrochage scolaire, un peu de prostitution aussi dans ce roman atypique par rapport à l'époque. Mais c'est probablement un des meilleurs romans sur l'adolescence parce que, en fait, Salinger ne jugeait pas ces personnages ni leur action. Ça raconte en deux mots l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Holden Caulfield et qui, après avoir été viré de son lycée, ne tient pas à revenir chez ses parents tout de suite et va à New York. Et il va vivre une sorte d'errance dans la ville avec des rencontres improbables qui vont définir un peu son personnage et son caractère. C'est un roman fascinant, je l'avais lu à l'âge de mes 15 ans. Je m'étais tout à fait identifié au personnage d'Holden. Et pour le livre, évidemment, je l'ai relu beaucoup plus. Et j'ai découvert, c'est comme les films qu'on regarde plusieurs fois, le même film. Il y a toujours un plan, une séquence, quelque chose qu'on n'a pas vu. Et dans un roman, c'est pareil, il y a des scènes qu'on a oubliées et qui vous reviennent en mémoire différemment. Et en plus, si on le lit à 15 ans, et qu'on lit ensuite à 30 ans, et puis ensuite à 50 ans, évidemment, la lecture n'est pas la même, et c'est assez passionnant.
Et Salinger lui-même est un personnage étonnant.
Oui.
Qui fuyait la notoriété.
Il détestait la notoriété. En fait, il n'a publié qu'un seul roman, qui a été un énorme succès. Il vivait à New York, et il est parti dans le New Hampshire, dans un tout petit village, près des bois... près des lacs, pour vraiment s'isoler complètement. Il a publié ensuite des nouvelles, mais il n'est jamais revenu au roman.
Et dans L'attrape-mot, nous découvrons une adolescente qui s'appelle Jade et qui est fascinée non seulement par ce roman, mais surtout par un personnage.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, seule la fiction lui permet de tenir d'une certaine manière. C'est une adolescente de 17 ans qui a des problèmes d'emphysème, c'est-à-dire de souffle, de respiration. Elle a un petit frère qui est mort de la leucémie, qui est un point commun qu'elle a avec Holden. Elle a une mère qui n'a pas supporté, évidemment, la disparition de son fils. Et un père, pareil, qui est libraire, mais qui, pour s'isoler, en fait, devient peintre, fait des tableaux un peu étranges, etc. Et en fait, la seule personne vraiment qui s'occupe d'elle d'une certaine manière et qui lui tient la tête hors de l'eau, c'est le personnage de Salinger, Holden Caulfield.
Et elle va être atteinte de, est-ce qu'on peut dire un syndrome ou autre, dont je ne connaissais absolument pas le terme, fictiophilie.
Fictophilie, en effet, fictophilie est un terme relativement récent, dont on parle quand même beaucoup en France et beaucoup à l'étranger aussi. Ça veut tout simplement dire quand un individu tombe amoureux d'un personnage de fiction. On est dans une époque où tout est possible avec l'intelligence artificielle et aujourd'hui, ce terme revient de plus en plus. La presse s'en est beaucoup emparée. En France, il existe de très nombreux forums où on peut échanger sur la passion qu'on éprouve pour un personnage de fiction. Et au Japon, c'est allé très loin puisque ça va jusqu'à des mariages entre personnages de fiction et personnages réels. Alors c'est plus du côté de la manga et de la bande dessinée, mais quand même en fiction, ça fonctionne aussi. Et c'est un terme qui correspond à la folie de notre époque.
Est-ce qu'on connaît des cas célèbres en France ? Non ?
Non, pas spécifiquement, mais je pense qu'on a tous, en tant que lecteurs, été plus ou moins attachés à un personnage sans être pour autant amoureux. Moi, j'ai pas le souvenir, qui suis un grand lecteur, j'ai pas le souvenir de tomber amoureux réellement d'un personnage, mais attaché, oui, de ce côté-là, oui, absolument.
Et dans son cas, donc, ça va devenir plus qu'une passion, et elle va même... Il y a un cousin qu'elle n'a jamais rencontré, mais qui a le même prénom que le personnage.
Oui, tout est absurde un peu dans le roman aussi, dans cette première partie où on suit la vie de Jade. Elle-même d'ailleurs dit que si elle écrivait un livre, ce serait absolument pas compatible que ce personnage s'appelle aussi Holden. Il y a une forme chez Jade de tromperie, de mensonge. Elle adore mentir, elle adore utiliser et manipuler un peu les gens. Et on va comprendre peu à peu à quel point on se fait avoir par elle.
Oh oui, ça il faut pas raconter. Ce qui se passe à partir de la moitié du livre, il y a une surprise extraordinaire.
Ouais, absolument.
Moi, je lis toujours. Bon, j'ai une petite confidence. La nuit, vers minuit, une heure, lorsque je suis arrivé à ce milieu de, j'ai découvert ça, j'ai continué jusqu'à 3h du matin.
C'est un roman qui ressemble à des poupées russes en fait.
Tout à fait.
Une disparaît, on en trouve une autre. Et puis avec cette idée de rupture aussi, puisque la plupart des romans vont d'un point A à un point B, c'est-à-dire avec une histoire qui est dans le continu, avec parfois des retours en arrière. Celui-ci est un roman qui est fait pour désarçonner, dans le bon sens du terme évidemment, mais désarçonner littéralement le lecteur qui ne peut pas s'y attendre.
Cette jeune fille en plus... Bon... Par exemple, elle considère que toutes les autres filles, elles sont sottes.
Oui, elle n'aime pas les filles. Ça, c'est clair. Elle n'aime pas les filles à l'école.
Elle a deux amis garçons.
Elle a plutôt des amis garçons. Elle a Noé, surtout, qui est très amoureux d'elle, mais elle n'est pas du tout amoureuse de lui. Mais il est essentiel à son monde, à son univers. Ils se promènent assez souvent ensemble. Il est très opposé par rapport à elle. Il est toujours habillé en noir. Il a un peu une tête de corbeau. Et ils sont quand même très attachés, mais sur un lien amical. Et puis, elle s'intéresse aussi à ce prof de gym, parce que comme elle a des problèmes d'emphysème, il faut qu'elle fasse du sport, il faut qu'elle aille régulièrement dans des caissons pour retrouver de l'oxygène pur. Et elle tombe aussi un peu amoureuse d'un des profs qui s'occupe d'elle.
Mais sa mère va même l'enlever de l'école. Elle va se retrouver avec une professeure.
Elle va l'enlever de l'école absolument à cause du fait que Jade s'évanouit et que c'est absolument pas prévisible. Donc ça peut très bien se faire aussi bien en classe que dans la rue. Et donc sa mère estime à un moment donné que ça devient un peu trop dangereux. Et donc elle la fait sortir du lycée et elle engage un professeur à demeure qui va enseigner à Jade les bienfaits de la littérature.
Mais... je pense que beaucoup d'adolescents, comme nous avons pu l'être, nous avons tous le souvenir d'un professeur comme ça qui a été, pas forcément de cours particulier, mais un professeur particulier dans notre vie qui nous a fait aimer quelque chose.
Oui, c'est vrai. C'était souvent d'ailleurs des cours de rattrapage qu'on pouvait avoir ou pas à l'extérieur d'une école. C'est vrai qu'elle s'intéresse beaucoup à la littérature. Elle a ce point commun avec Holden aussi qui est très important justement, qui est la littérature. C'est-à-dire que Salinger, dans la Trappe-Cœur, fait une sorte de bibliothèque idéale avec les auteurs probablement qu'il a aimés. Karen Blixen avec La ferme africaine, que ce soit Ernest Hemingway, que ce soit Scott Fitzgerald. Et Jade va s'intéresser à toutes ces lectures qu'a Holden dans le livre. Et donc elle va lire les mêmes livres et se demander au fond ce qu'il ressentait lui-même en les lisant. C'est une manière de le suivre aussi assez originale. Et c'est un livre aussi qui est fait pour la découverte et l'amour de la littérature, comme je peux avoir et comme j'essaye de partager.
Mais avez-vous, bon, sans arriver à la fictophilie, mais un livre vraiment qui vous a particulièrement marqué, peut-être L'Attrape-Cœur ou un autre?
L'Attrape-Cœur, parce que j'ai vraiment, j'étais adolescent quand je l'ai lu, j'étais un jeune adolescent de 15 ans, et c'est un livre qui m'a bouleversé, parce que pour la première fois, on voyait une sorte d'adolescent libre dans une époque qu'il semblait l'être davantage que la nôtre, et puis cette espèce de pudeur sans cesse qu'a ce garçon, parce que en fait, évidemment, il est intéressé par les filles, mais à chaque fois, il y a toujours un truc qui fait qu'il ne va pas plus loin. Donc, en fait, il reste une sorte de puceau pendant toute l'histoire. Il termine dans un hôpital parce qu'il est très fatigué, mais on ne sait pas si c'est un hôpital psychiatrique ou un simple hôpital. Et moi, c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué, déstabilisé. Et quand j'ai travaillé le livre, évidemment, j'ai dû le relire un certain nombre de fois. Et j'y ai retrouvé des points extrêmement forts. Par exemple, ce qui ne se faisait pas, ce qui pourrait pas se faire à notre époque, Salinger décrit très rapidement son personnage. On sait que c'est un géant qui fait pratiquement 2 mètres, comme Salinger lui-même d'ailleurs, qui était très grand. On sait qu'il est roux comme son frère et sa sœur, mais on ne connaît pas la couleur de ses yeux. Vous imaginez un roman aujourd'hui contemporain où on ne connaîtrait pas la couleur d'yeux des personnages. À l'époque, il y avait une forme de liberté par rapport à plein de choses. Il n'y avait pas de code en littérature. Et il y a une sorte de liberté qui plane tout au long de ce livre.
Et lorsque l'on écrit un ouvrage comme celui-là, est-ce qu'on se met dans la peau de son ou de ses personnages?
Oui, absolument, c'est même primordial. Je me suis mis dans la peau de Jade, puis de Rose, puis de Ruby, puis des autres, parce que, en fait, on finit par oublier quand on lit un roman qu'il y a toujours l'écrivain derrière. La manière de façonner les personnages, de les faire vivre, de les faire exister dans un roman. Vous savez, moi, mon obsession, c'est de leur donner du sang, des os, de la peau, des muscles, et qu'on ait le sentiment qu'ils vous accompagnent tout au long d'une lecture et qu'on ne va pas forcément les oublier un mois après avoir lu le livre.
Nous allons laisser passer un communiqué, si vous le permettez.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle que je reçois aujourd'hui Gilles Paris pour L'Attrape-Mot, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Il est sorti il y a très peu de temps, cet ouvrage.
Oui, à peine un mois.
Et vous avez déjà eu des contacts avec des lecteurs?
Oui, bien sûr.
Parce que je pense qu'il y a des gens qui vous voient dans les salons, mais peut-être d'autres qui vous écrivent.
Non, pour le moment, je me suis plutôt déplacé en librairie, mais les salons arrivent à partir de fin mars. Et moi, j'adore parce que si on n'allait pas dans les salons ou les librairies, on ne saurait pas qui nous lit quelque part. Donc, il y a toujours un échange, il y a toujours des choses formidables qui se passent dans ces cas-là. Et j'avoue que j'aime beaucoup les salons des livres, notamment pour le côté un peu collégial, un peu sympathique, et puis ces rencontres qui sont importantes pour n'importe quel écrivain.
Mais n'y a-t-il pas justement dans ces personnes qui viennent vous voir, certaines personnes qui, après avoir lu vos livres, ont l'impression, vous disent « Ah bah, c'est un peu ce que j'ai vécu », bon, par exemple des enfants qui ont été dans des...
Oui, on me l'a dit, notamment, surtout pour Certains cœurs lâchent pour trois fois rien, qui était un roman, qui était un récit d'ailleurs, plus qu'un roman, et qui parlait des dépressions que j'avais pu traverser. On me le dit moins sur les romans, parce que les romans font appel à l'imaginaire, à la curiosité des lecteurs. Donc c'est très différent. Ils sont, par exemple, pour un livre comme celui-ci, on me dit beaucoup à quel point les gens ont été surpris par la construction du livre, combien ils ont été désarçonnés, combien ils ont adoré en même temps être manipulés d'une certaine manière. Et je pense que jusqu'à la période qui va courir entre mars, avril, mai et juin, où j'aurai beaucoup de salons du livre en France et à l'étranger, je pense que c'est quelque chose qui va revenir régulièrement.
Bien sûr. D'ailleurs, pour ce livre, il faudrait faire comme on l'avait fait pour le film Les Diaboliques de Clouzot, mettre une pancarte. Si vous l'avez lu, ne racontez pas la fin.
Alors, les critiques sont d'ailleurs très chouettes pour ça, parce que ce soit en national ou que ce soit sur Instagram, où, j'ai été vraiment gâté là, depuis la sortie. Et personne ne révèle le poteau rose, parce que je crois que c'est comme quand vous lisez un très très bon thriller, quoi, et que vous avez ce qu'on appelle un switch final, c'est-à-dire vraiment un passage où vous êtes complètement happé. Cette manière, cette façon d'avoir été abusé, manipulé, alors que quelquefois on vous donne quelques signes, on vous met quelques pistes aussi, comme l'ont fait les grands auteurs de polar. Mais je pense que les gens respectent ça.
Et lorsque vous avez commencé l'écriture de ce livre, est-ce que vous aviez déjà le scénario en tête ?
Chaque fois que je commence un livre, je ne connais pas la fin. En fait, je fais des fiches pour les personnages avec la couleur d'yeux. Et leurs petits détails, et puis j'avance sur le roman, puis après je le fais en fait avec mes personnages. J'ai très vite compris que j'allais en effet provoquer une rupture de ton, de personnage, et me réapproprier différemment l'histoire, et je trouvais que d'abord on pense à soi, puis après on pense aux autres, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne tous, et je pensais après que les lecteurs et les lectrices de ce livre aimeraient justement cette construction biscornue.
Vous avez travaillé dans le domaine de la musique et du cinéma?
Oui, absolument, dans le domaine de la musique et du cinéma, et surtout de la littérature, parce que ça fait quand même 42 ans que je suis attaché de presse. Alors, dans
ça,
le monde
on va en parler,
l'édition.
Parce que c'est un métier qui est très très peu connu.
Oui, mais on est une sorte de trait d'union entre les journalistes et les auteurs, et on est là, on existe en fait pour essayer au mieux de réussir la promotion d'un livre. On s'occupe de la presse nationale, des radios, des télévisions nationales. Aujourd'hui, ce qui a beaucoup changé évidemment, c'est les réseaux sociaux, donc c'est Instagram, c'est les blogs, c'est les influenceurs, c'est les podcasts qui sont ajoutés au métier. Et puis le fait que les journalistes aussi sont quand même extrêmement sollicités. La plupart des grands journalistes littéraires reçoivent jusqu'à 50 livres par jour. Donc ils n'ont pas toujours le temps d'ouvrir les enveloppes. Ils peuvent prendre du retard sur les rentrées. Et puis c'est vrai que moi je les comprends très bien. C'est-à-dire que c'est compliqué. Même moi, en tant qu'attaché de presse, je lis beaucoup. Et les attachés de presse, entre guillemets, ne sont pas payés pour lire. Nous, on lit par exemple le soir, les week-ends, sur notre temps libre. Je ne me vois pas travailler un mardi ou un mercredi, me mettre à lire un manuscrit. Je n'ai pas le temps et je ne peux pas. Donc voilà, c'est quand même un métier assez intense, mais que j'adore faire depuis tout ce temps-là.
Mais peut-on défendre un livre si on ne l'a pas apprécié soi-même ?
Oui, bien sûr. À ce moment-là, il faut trouver un angle par rapport à l'auteur, par rapport à son parcours, par rapport à sa vie, et plus défendre l'auteur que le livre.
Ça doit être difficile.
Ça m'est arrivé, je dirais pas souvent, mais ça peut m'arriver régulièrement.
Enfin, ça doit quand même être assez délicat.
Il faut être ouvert d'esprit, en fait, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a le temps de travail que l'auteur a pu mettre dans son œuvre. Il faut respecter aussi un certain nombre de choses par rapport au métier d'écrivain. Il y a la critique, on va dire, qui peut être facile aussi sur certains types de livres. Moi, j'essaie d'accompagner au mieux les auteurs et surtout de pouvoir les choisir maintenant, depuis que je suis indépendant, depuis 2006 quand même.
Ça, c'est une chance.
C'est une chance, oui. C'est une chance. Alors financièrement, c'est moins bien que d'appartenir à une maison d'édition, mais c'est un choix que j'assume et que je n'ai jamais regretté.
Et pour votre propre écriture, est-ce que vous écrivez à des heures privilégiées ou lorsque vous commencez un roman, vous consacrez beaucoup à lui?
Alors d'abord, il y a l'idée du roman. C'est-à-dire que dès que je trouve une idée, il faut qu'elle m'obsède. Si elle ne m'obsède pas, ce n'est pas bon. Et si j'y pense jour et presque nuit, je vais commencer dans ma tête à construire un peu l'histoire du livre avant de vraiment m'y atteler. Mais ça peut n'être qu'une nouvelle. Si je n'ai pas assez de souffle pour en faire une histoire, et si je peux le dépasser, j'en ferai un roman à ce moment-là.
Mais vous publiez essentiellement des romans?
Essentiellement des romans, absolument.
Et les recueils de nouvelles, ça ne vous tente pas dans...
J'en ai fait un chez Gallimard qui s'appelle La lumière est à moi, qui sont des nouvelles à la fois d'adolescents, d'enfants et d'adultes, et qui est un recueil que j'aime beaucoup, et j'ai eu beaucoup de chance de le publier parce que j'ai mis 30 ans à trouver un éditeur qui acceptait les nouvelles, puisque les nouvelles ne se vendent pas très bien, et donc les éditeurs sont un peu frileux là-dessus.
Héloïse d'Ormesson, c'est une bonne maison d'édition parce que j'en reçois assez souvent de cette maison.
Oui, elle a 20 livres par an, donc elle dit elle a tout d'une grande et c'est pas faux. Et en même temps, elle a le temps de bien s'occuper de ses auteurs et d'être très présente. Moi, j'avoue que j'avais publié en 2012 un roman avec elle qui s'appelait L'été des Lucioles. Je suis ravi de la retrouver aujourd'hui parce que j'ai le sentiment d'être à la fois très bien accompagné et d'être très présent.
Il me reste très très peu de temps, mais je voudrais quand même, un sujet qu'on abordait très très rapidement, est-ce que l'intelligence artificielle n'est pas un danger pour la littérature ?
Complètement. Moi, je suis pas du tout pour l'intelligence artificielle. Je vais sur ChatGPT pour lui demander de me faire une photo en noir et blanc, un peu mystérieux, un peu agent secret. Ça m'amuse. Mais ça s'arrête là. Je crois que traduire des livres... On a fait un essai ce matin avec une de mes collaboratrices. On a demandé à ChatGPT de me faire une chronique du livre. C'est amusant parce que... Et alors, il y avait des choses vraies dans la chronique, mais tous les prénoms cités étaient faux. Le livre était paru en 2023. Enfin, oui. il y avait que des choses, mais il y avait quand même des choses intéressantes et c'était une critique soutenue. Mais je suis vraiment contre l'intelligence artificielle parce que on va maintenant avoir des romans qui sont écrits par l'intelligence artificielle. C'est ça qui me plaît pas.
C'est effectivement un danger parce qu'il n'y aura aucune humanité dedans, en quelque sorte.
Oui, et puis surtout, je suis désolé, ça ne remplacera jamais l'écrit, la sueur et le temps passé à l'écrire.
Gilles Paris, je vous remercie beaucoup. Alors, nous allons terminer par une chanson qui est L'Attrape-cœur, oui. Qui est interprétée par Vincent Delerm. Vous la connaissiez déjà, moi je l'ai découverte parce que pour chaque émission, j'essaye de trouver une chanson en rapport. Ben, j'espère que celle-ci conviendra.
C'est parfait.
Je rappelle le titre de cet ouvrage, L'Attrape-mot de Gilles Paris. Paris, c'est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et c'est un ouvrage vraiment que je vous conseille et qui vous surprendra. Ça, je serais étonné qu'aucun lecteur ne soit pas surpris par cet ouvrage. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Je traverse une ville. La nuit est facile. Je connais ses heures depuis longtemps. Les soirs de concert, les visages, les verres. Le couloir d'hôtel, en y pensant. C'était quoi ce plan? Rêve adolescent. Le piano, la scène. Une vie comme ça. C'est quoi cette histoire? La salle dans le noir. Quatrième rappel, servir à quoi? Les heures et faire l'attrape-cœur. L'attrape-cœur. Attraper les nuits, les amours en fuite. Les lèvres embrassées, les cages d'escalier. Je m'occupe de tout. Ne t'inquiète pas. Le soir qui descend, ce genre de frôlement. La pelouse en juin, ça, c'est pour moi. J'aime te faire sourire. Pourtant, à choisir, je prends la filière. Port-bail, bac plus 3. Bilan compétences. Moyen pour la danse, pour les sentiments, ça ira. Attraper les heures et faire l'attrape-cœur. L'attrape-cœur. Attraper les nuits, les amours en suite. Traverse une ville, la nuit est facile. Depuis longtemps, je connais ses heures. Les soirs de concert, la chambre en hiver. Je relis l'attrape-cœur.